Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous permettre d'aller à la rencontre de Léon C. qui vient de voir sa biographie de publiée par M. Paul-Jacques Lehmann chez Les Belles Lettres. Paul-Jacques Lehmann étant professeur d'économie à l'université de Rouen. Et je reçois, pour commenter cette parution, le philosophe Alain Laurent, qui est directeur de la collection des Penseurs de la Liberté, chez précisément les Belles Lettres. Alors, on connaissait Jean-Baptiste C. Bonjour tout d'abord,
bonjour.
Alain Laurent. On connaissait donc Jean-Baptiste C, on connaissait sans doute, enfin en tout cas le commun des mortels connaissait sans doute moins Léon C. Qui était Léon C? C'est la première question que j'aimerais vous poser.
Oui, alors il n'a pas pour seul mérite d'être petit-fils de son grand-père, si l'on peut dire. Ouais. L'illustre économiste Jean-Baptiste C, alors il y a eu le relais entre les deux par Horace C, donc c'est une belle dynastie de ce point de vue-là. Et Léon C a d'autant plus d'importance que pendant les 30 premières années de la Troisième République, c'est-à-dire entre 1870 et puis le moment de sa mort, presque à la fin du 19e, en 1896, il a été un acteur extrêmement influent et présent sur tous les plans. Alors, c'est un politique, ça a été un parlementaire, et qu'on va sans doute en parler, qui a été tout de même à 4 reprises ministre des Finances, et l'un des plus grands ministres des Finances que la France ait eu. Il a été au total, entre 1872 et 1884, 5 ans au ministère des Finances, qui est un record, presque en France, hein, de ce point de vue-là. C'est lui qui a renégocié le traité de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne, avec Gladstone, qui a une énorme importance à la fin du 19e siècle pour relancer l'économie des deux pays. Et puis, c'était un homme d'idées en même temps. Alors, ça nous intéresse tout particulièrement. Et c'était quelqu'un qui était fasciné non seulement par la personnalité de son grand-père, mais par celle de Turgot.
Absolument.
Dit, il y a une filiation familiale extraordinaire, c'est la dynastie d'Essai, puis une filiation intellectuelle qui est celle de Turgot. Et c'est également un excellent connaisseur de David Hume. Donc il est rare de voir quelqu'un qui est à la fois un grand intellectuel, qui soutient les idées libérales, et puis un politique qui essaie, tant bien que mal, d'appliquer les idées libérales au contexte de son époque.
Alors, je crois qu'on va au cœur du sujet en citant le sous-titre de cet ouvrage, « Le libéralisme assumé ». Alors, est-ce qu'on peut assumer son libéralisme au moment où nombre de débats paraissent interdits par le politiquement correct? Et est-ce que cette publication de Léon C, qui vient d'être d'ailleurs saluée à plusieurs reprises dans la grande presse économique nationale, est un moyen de renforcer ses thèses libérales?
Sans doute, parce que c'est quelqu'un d'une grande humanité, qui a été à l'Académie française aussi, encore une fois présent sur tous les fronts, et qui réussissait l'exploit d'être extrêmement rigoureux dans les idées qui le soutenaient, tout en étant ouvert et en faisant de sorte que le libéralisme soit à l'avantage de tout le monde. Alors, exemple concret, c'est quelqu'un qui déclenche la guerre contre cette idée de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Vous savez que l'impôt progressif sur le revenu a été établi, selon les pays, à la fin du 19e au début du 20e siècle. Et, du point de vue de Léon C, c'est tout simplement une spoliation organisée par l'État qui empêche les individus de disposer de leur propriété, en l'occurrence de leur revenu. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut aider, favoriser au maximum le développement des sociétés coopératives où les gens peuvent participer pleinement à l'activité économique, les salariés au premier chef. C'est quelqu'un qui est favorable au développement des mutuelles. Donc donc tout ce qui favorise la participation directe, même des individus les plus modestes, ça, le feu vert et les encouragements de Léon Say. Voilà aussi pourquoi il donne une image tout à fait ouverte et attractive du libéralisme.
Tout à fait. Alors donc, c'est un fils de la Révolution de 1789, en quelque sorte, mais il est bien sûr, à ce titre, attaché à toutes les formes de liberté.
Absolument.
Qu'elles soient économiques, civiles, sociales, etc. Et donc, en fait, son œuvre est absolument considérable.
Ah, c'est une œuvre considérable. Paul Jacques Lehmann, donc l'universitaire qui a fait cette biographie, montre dans la bibliographie qu'on a recensé 216 publications de Léon Say. Alors, c'est quelqu'un qui collaborait à cette revue très influente sur le plan économique de l'époque, le journal, le fameux journal des économistes. Mais alors, il y a des conférences de tous les côtés. Puis alors, ça vous intéressera, Jean-Louis Chambon, quantité d'ouvrages qui concernent l'économie financière. C'est sans doute le premier en France qui s'avise de l'importance de cette discipline et puis de cette réalité. En tant que ministre des Finances, c'est pas étonnant, mais le nombre d'ouvrages qu'il a publiés, la comptabilité des finances publiques, les finances de la France, l'impôt sur le revenu, la politique financière de la France, dictionnaire des finances, c'est assez hallucinant.
Alors, donc c'est une œuvre, une contribution à la réflexion économique et financière extrêmement importante. C'est un auteur, vous l'avez dit, donc prolifique. C'est aussi donc une vie marquée par quelque chose qui nous paraît extrêmement important à notre époque, par le sens de la fidélité. La fidélité à la République, à l'État, à un parti, à une fonction, a été le fil d'Ariane de sa vie, avec un incorrigible optimisme auquel, selon lui, l'avenir appartient, c'est-à-dire à ceux qui croient à l'efficacité de leur politique. Est-ce que ce n'est pas une grande leçon pour nos politiques d'aujourd'hui ?
Ah, tout à fait. Alors, il faut souligner quelque chose, donc, comme pas mal d'autres régimes, mais c'était tout de même assez particulier, sous la Troisième République, il y avait beaucoup de scandales, même de scandales financiers, etc. Et au milieu de tout cela, alors, il y a quelqu'un qui est d'une intégrité absolue, auquel on n'a jamais pu reprocher quoi que ce soit, c'est Léon Say. C'est pourquoi il faisait assez l'unanimité, même à son époque, même chez ses adversaires.
Donc d'une grande intégrité.
Ah oui, tout à fait, grande intégrité intellectuelle. Peut-être parce que c'était avant tout un homme d'idées qui avait ses convictions, donc c'était un grand protestant, quelqu'un qui essayait d'appliquer dans la vie les préceptes religieux qui étaient les siens, mais en même temps un très grand laïc, comme le sont souvent les protestants. Donc forte conviction. Mais
une figure influente du protestantisme laïque et du libéralisme républicain.
Ah, tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui, au début des années 70, a beaucoup contribué à installer la Troisième République, au moment où alors des légitimistes, des gens qui voulaient revenir en arrière, établir la monarchie. Et Léon Say, très grand républicain, donc quelqu'un qui était pratiquement légal à l'époque de Gambetta, par exemple, de Jules Ferry, hein. C'était donc ses alter ego, donc quelqu'un qui a contribué à asseoir la Troisième République. La Troisième République a été bien plus libérale qu'on ne pourrait l'imaginer actuellement. Et alors, le grand combat de Léon Say, c'était de s'opposer aux socialistes et aussi aux radicaux socialistes, dont parfois il était proche. C'était quelqu'un qui était plutôt au centre-gauche, hein, sur l'échiquier politique, les radicaux socialistes aussi. Mais alors, la ligne de démarcation, c'était en effet et souvent l'impôt et le degré d'intervention de l'État. Et pourtant, en tant que ministre des Finances, il fallait qu'il intervienne. Mais il pensait qu'il y avait une manière de faire pour que l'intervention soit d'autant plus efficace qu'elle était subtile et modérée.
Donc le libéral que vous êtes n'est pas forcément fâché de connaître ce refus du socialisme.
Il a écrit plusieurs ouvrages contre le socialisme à l'époque. Bah, il devinait en effet que ça ne pouvait que ruiner les bases de ce qu'il essayait d'édifier, c'est-à-dire une société dans laquelle chacun était libre, responsable, pouvait disposer de sa propriété. Donc quelqu'un aussi, comme Röpke, dont on parlait tout à l'heure, de la propriété privée. Mais tout cela, c'est quelqu'un, mais c'est très curieux, plus que d'autres libéraux, il avait le souci de la dignité des gens. Non pas que d'autres libéraux y étaient insensibles, mais lui, d'une façon pratique. C'est quelqu'un qui a combattu pour qu'il y ait le repos hebdomadaire le dimanche, qui a combattu le travail des enfants. Voyez-vous.
Donc un grand visionnaire, je dirais, de son temps. Et donc on retrouve les principales idées de Léon Say. Et donc la première étant la liberté de l'homme et le respect des principes. Et la première des libertés étant la liberté politique. La liberté commerciale, et la bonne gestion de la monnaie par l'Institut d'émission.
Oui, voilà.
La discipline budgétaire, la stabilité fiscale, ce sont des thèmes qui, aujourd'hui, je veux dire, ne feraient pas tâche dans les préoccupations.
Ah oui, ça semble relever de l'utopie maintenant.
D'accord. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer, justement, de ces grandes idées de Léon Say au niveau de leur destination dans l'actualité ?
Ah, bah certainement, puisqu'il donne un exemple à la fois d'efficacité dans la gestion des affaires et surtout des finances publiques. C'est quelqu'un, comme vous venez de le rappeler, qui veillait farouchement au grain pour qu'il n'y ait pas de croissance de la dépense et des déficits publics. Alors vous voyez le message actuel, surtout en France, on n'a pas craint d'approfondir de façon tout à fait vertigineuse récemment les deux, parce que pour lui, rien de bon ne peut sortir de ces bases dispendieuses. Donc voilà sans doute la leçon essentielle. Un exemple de rigueur, un exemple aussi d'antidémagogie dans la pratique de tout cela, ne pas céder justement aux sirènes du moment, ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde forcément parce qu'il y a des choses plus importantes, encore une fois, qui sont la rigueur qui les met dans le domaine intellectuel et la rigueur qui les met tant. C'est une sorte de, en jouant sur les époques, une sorte de Mendès France de droite d'une certaine façon.
Je crois que ça nous servira de conclusion. Ce que dit donc l'auteur Paul-Jacques Lehmann, mais que vous reprenez dans vos commentaires en fin de cet ouvrage, est, je crois, tout à fait significatif de cette pensée de Léon C. Et je le cite, page 255. « Être conscient de ces risques nécessite pour C une information permanente des citoyens. Surtout, le capitalisme ne doit pas être laissé livré à lui-même, car il est par essence inégalitaire. En effet, ce sont l'intérêt personnel et l'égoïsme qui guide l'homme et la recherche du profit, source de création de richesses, qui constitue le seul objectif des entreprises. Il ne faut pas compter sur la morale pour pallier ces inconvénients. C'est donc à la puissance publique de le faire afin d'œuvrer dans le sens de l'intérêt collectif, tout en se limitant à son rôle de régulation. L'État doit fixer par l'intermédiaire de conditions juridiques précises des règles strictes aux agissements des individus afin d'empêcher les dérives auxquelles peut donner naissance la loi du marché. Si ces préceptes était appliqué, le problème des différences entre libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme n'aurait pas de raison d'être. Le modèle d'économie libérale issu des propositions de Léon C, adapté à notre époque, suffirait. Je crois que c'est la grande synthèse de cette œuvre.
Je crois qu'il faut être tout à fait admiratif à l'égard donc, de l'auteur, hein, Paul-Jacques Lehmann, parce qu'il a très bien montré qu'au fond, Léon C a réussi à bien configurer ce que devrait être, ce que pourrait être un État libéral. Le libéralisme n'est pas l'ennemi de l'État de ce point de vue-là, mais il le limite à quelque chose de tout à fait essentiel, sans lequel, en effet, la liberté individuelle ne peut pas perdurer ni s'accomplir.
Alors, avant de conclure, je voudrais quand même vous donner l'occasion de vous exprimer un peu plus sur votre rôle de directeur de la collection des penseurs de la liberté. Nous avons déjà évoqué votre rôle pour un autre auteur donc, qui a été réédité, William Röpke, au-delà de l'offre et de la demande. Donc, cette collection, à quel objectif précis ?
Alors, ce sont deux collection sœurs, oui. En fait. Alors là, celle-ci, elle est en train de décoller, si je puis dire, parce qu'elle a un programme fourni pour les prochaines années. Donc ce ne sont même pas les penseurs de la liberté, ce qui serait un programme tout à fait ambitieux que je serais incapable de mener à bien, c'est penseurs de la liberté. Donc ce sont...
Oui.
Alors j'étais prudent de ce point de vue-là.
D'accord.
Et donc ça vise large, puisque parmi les prochains qui paraîtront, donc ce sont des biographies intellectuelles, qui souligne l'apport, la contribution de penseurs, dont certains sont fort connus, d'autres moins, à l'illustration de cette valeur de la liberté individuelle, mais pas forcément tous dans le même sens. Par exemple, au programme, il y aura une biographie intellectuelle de Jean-François Revel, une de la célèbre romancière et philosophe américaine, Ayn Rand. Donc, des choses comme ça sont en train de se préparer. Et cette collection, donc, à l'inverse de l'autre, la Bibliothèque classique de la liberté, qui réédite des ouvrages classiques, elle essaie de projeter un éclairage nouveau sur des consacré où le thème commun étant toujours cette défense de l'idée de liberté individuelle.
Très bien. Eh bien, écoutez, ça nous donnera l'occasion lors des prochaines parutions de vous accueillir avec grand plaisir sur notre antenne. Je rappelle donc cette biographie de Léon C. Ou le libéralisme assumé qui est parue sous la plume de Paul-Jacques Lehmann aux éditions Les Belles Lettres dans la collection dirigée par le philosophe Alain Laurent, Les penseurs de la liberté. Très bien. Et je rappelle que c'est un ouvrage qui est vendu 25 € pour 259 pages. Merci donc à vous, à très bientôt. Merci à vous Alain Laurent.
Merci Jean-Luc Chambon.